Allô, allô? Oui. Moyen. Allô? Fabien. Écoutez, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc, votre président a estimé utile que je rappelle quelques éléments historiques sur le monument des Brotteaux, qu'on appelle communément monument religieux des Brotteaux, une appellation qui est l'appellation d'origine, parce qu'il y a bien d'autres monuments religieux aux Brotteaux. Et donc ce monument, c'est celui qui renferme les ossements des victimes de la répression révolutionnaire qui a suivi le siège de Lyon. Donc on se rappelle, c'est 6 mois d'arrestation arbitraire, de condamnation à mort par guillotine, place Bellecour, place des Terreaux, fusillade ou canonnade au Brotteaux, au final de l'ordre de 2000 morts, sans compter les combattants du siège. Alors ce type de monument, que j'appellerai un monument de mémoire, n'est pas unique. On connaît la chapelle expiatoire à Paris, qui a été construite sur une fosse. Et contrairement au monument de Lyon, les ossements qu'on a recueillis dans la fosse, où il y avait d'ailleurs Louis XVI et Marie-Antoinette, qu'on a sortis pour les mettre ailleurs après, mais ils ont été intégrés dans les murs de la chapelle expiatoire. Alors qu'à Lyon, ils sont en présentation. On connaît aussi la chapelle des martyrs à Feur. Je crois que son responsable est dans la salle, je crois. Et on peut citer aussi Picpus à Paris. Oui, c'est un peu trop. Moi, je vais parler sans micro. Alors, on connaît aussi...
Non,
on ne connaît pas trop, oui.
Non, mais pas trop près.
Ah oui, pareil.
Comme ça, c'est très
bien.
Donc, on connaît aussi Picpus à Paris, qui lui est dans une logique de cimetière construit à côté de la fosse. Et je citerai, juste pour mémoire, les Carmes à Paris, où si vous visitez les Carmes, vous avez une espèce de crypte également, où on vous présente quelques ossements de ceux qui ont été massacrés à la hache, au pic, etc. Voilà. Alors le monument dont on parle aujourd'hui, c'est un monument qui a été construit au début du XXe siècle, entre 1898 et 1901. Il est situé 147 rue de Créqui. Alors pourquoi est-il situé rue de Créqui? C'est effectivement le préfet de l'époque, parce que tout ça s'est fait avec la municipalité, en liaison avec la municipalité, le préfet voulait que le monument soit installé sur l'endroit où les Lyonnais avaient été fusillés en masse. Vous vous rappelez qu'en décembre 1793, il y a une première fournée de 63 Lyonnais qui ont été... la guillotine, ça ne marchait pas assez vite. Donc, on les a transportés au Brotteaux et on a essayé, un premier test, c'était sous l'air de Fouché, voilà, à la mitraillade, canonnade, c'est-à-dire on vous mettait le canon, si vous étiez à 3 mètres, le canon, ça lance de la mitraille, et la mitraille, je ne savais pas ce que c'était, voilà, c'est des bouts de fer, de métal, donc vous ne mourrez pas tout de suite, vous êtes blessé, vous avez un œil éborgné, je ne rentre pas dans le détail, et après, on achève le travail avec des pics, des pioches, etc. Voilà, donc, pourquoi est-ce que je... Oui, voilà, donc on pense, voilà, le bâtiment a été construit sur ce lieu, en gros des fusillades. Hein. On verra plus tard qu'il y a 11 fosses qui ont été ouvertes. Ce bâtiment, ce monument, il est desservi par une communauté religieuse qui s'appelle la famille missionnaire de Notre-Dame et d'ailleurs qui prend une part active à la béatification de certaines victimes qu'ils considèrent comme étant des martyrs de Lyon. Sur le plan juridique, le bâtiment appartient à une association qui regroupe des descendants des victimes du siège et il y a deux événements phares dans la vie de cette association pour le public, c'est-à-dire deux messes solennelles qui sont célébrées, l'une en mai et l'une en octobre. En mai, ça rappelle le jour, le mois où les Lyonnais se sont rebellés contre la Convention, voilà, avec des échanges de feu sur la place des Terreaux très nourris avec plusieurs centaines de morts. Et puis en octobre, c'est l'élément tragique, c'est la ville de Lyon qui est livrée aux révolutionnaires de la Convention avec le départ de Précy, du général de Précy, qui part avec des centaines d'hommes qui sont massacrés en cours de route dans le Lyonnais. Alors, ceci dit, on n'a pas attendu 1900 pour honorer les victimes. Dès 1795, alors ça, s'il y avait une chose à retenir, mais je redire en conclusion, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Dès 1795, je vous rappelle qu'en les exécutions, elles se sont arrêtées en avril 1794. À Paris, ça se passe pas très bien. Il y a des luttes entre factions, Danton, Robespierre. Il y a des règlements de compte sanglants entre eux. Et donc, en avril, on sent que ça sent le roussi. Donc, on arrête tout à Lyon et aussi dans les autres villes. En juillet, Robespierre, ça y est, c'est terminé. Et donc, voilà, partout sur le territoire, on arrête les exécutions, même si les gens restent, pour quelques-uns, en prison. Qu'est-ce qui se passe en 1795 ? Voilà, en 1795, on construit un premier monument. Qui le construit ? Ce ne sont pas les catholiques, ce ne sont pas les prêtres, parce qu'ils n'ont pas encore le droit de citer, ils se cachent. Donc c'est la municipalité laïque et républicaine qui va vouloir honorer ses morts. C'est la municipalité laïque et républicaine qui va vouloir honorer ses morts. On fait venir un architecte, on construit le bâtiment. Alors je ne sais pas si on s'en compte, donc on voit là. Effectivement, ils ont encore la façon de se vêtir révolutionnaire avec le grand chapeau bicorne, avec des espèces de grandes plumes qu'ils avaient quand ils siégeaient dans les tribunaux révolutionnaires. Et autrement, ça, c'est 6000 hommes de la garde nationale de Lyon qui vont, ils vont partir de la place Bellecour, il y a un défilé, ils vont passer par le pont Morand, et tous les Lyonnais vont venir rendre hommage. Donc on voit que c'est tout à fait, on va dire, laïque, hein, il y a la grande urne aussi, il y a des espèces de vestales qui sont là, des grands chapultères, voilà, des vases avec des encens et des éléments de draperie avec des textes qui sont écrits. Je vais vous en dire deux éléments pour vous situer l'ambiance. Mais c'est bien les républicains qui rendent hommage, mais qui demandent pardon. Voilà. Le 29 mai, ce mausolée 95 est officiellement inauguré. La population se masse sur la place Bellecour, déjà sont rangées en bataille les légions du Rhône. Des représentants du peuple et de la municipalité sont présents, qui remettent les drapeaux aux légions et, dans de vibrants discours, flétrissent les crimes de la terreur, célèbrent les jours héroïques du siège et la vaillance des régiments du Lyonnais aux armées. Le cortège se rend ensuite au Breteau. Donc on suit la description. Aux quatre coins du monument, un large génie fixé par les Égyptiens et ensuite par les Grecs à la garde des tombeaux, soulevant avec la tête les assises de pierre de la voûte supérieure, au-dessus de ces génies funèbres, des hiboux, oiseaux de nuit, sortant effrayés du sépulcre, formaient quatre groupes qui soutenaient des turifères, voilà, je cherchais les termes, vases où brûlaient les parfums et l'encens. Et donc en dessous, il y avait un certain nombre de descriptions, j'en cite juste une. Champ ravagé par une horrible guerre, tu porteras un jour d'immortels monuments. Hélas, que de valeurs, de vertus, de talents sont cachés sous un peu de terre. 6000 hommes précédés de tambours, drapés et d'une musique funèbre ont fait le tour du monument, etc., etc. Alors ce monument, il va disparaître un an après, parce que les combats entre factions révolutionnaires vont encore durer, et donc des factions plus dures vont brûler le monument, et le projet va redémarrer sous la Restauration. Alors voilà, ça c'est une autre, c'est un tableau qu'on retrouve encore ici ou là dans des ventes. Vous voyez ce côté, ça me fait penser à des vestales grecques. Donc j'insiste sur le fait, voilà, il n'y a aucun signe religieux sur ce premier monument. Si on regarde, alors là on est dans la plaine des Breteaux, alors finalement on ne voit pas très bien. Mais ça doit être la ferme de la Pardieu. Parce que les guillotinés, on nous explique que c'est le chemin qui va de la ferme de la Pardieu et qui va rejoindre le pont Morand entre la rue de Vendôme et rue de Créqui. Il va passer par là. Bon, là, ça devient un lieu de promenade pour les Lyonnais. Ça, on voit les costumes du directoire sur cette gravure. Alors, le monument ayant disparu, donc il est question de reconstruire un deuxième monument. Nous sommes sous la Restauration, et on va inaugurer un monument en 1819. Alors, regardez le style de ce monument, il est assez étonnant. Il s'agit d'une pyramide, et derrière la pyramide, il y avait le bâtiment, il y avait une église, enfin, qu'on ne voit pas, mais l'entrée. Alors, ça peut faire penser à beaucoup de choses. Moi, je pense plutôt que c'est le style retour d'Égypte, qui était assez à la mode à cette époque-là. Dans certains lieux d'Europe aussi, vous avez des espèces de monuments funéraires de cette forme-là. Donc, il est inauguré en 1819. En 1821, on y transfère les restes du général de Précy, parce que si toutes ses troupes, quasiment toutes ses troupes, ont été décimées dans la sortie d'octobre 1793, oui, 93 ou 94
93.
93, oui, tout à fait. Lui, il a réussi à s'échapper et à partir en Suisse, et il va mourir de sa bonne mort dans sa propriété à la campagne, et donc on transfère son corps dans la crypte de ce nouveau bâtiment. Et après intervient la deuxième. Alors on construit l'église, on transfère le corps du général de Précy, et on va exhumer les corps des fosses. Très gros travail, avec des commissions qui sont mises en place. La municipalité, un représentant de la municipalité là, du préfet, etc., et des membres de la commission, la fameuse commission des protos. Voilà. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce qui s'était passé et qui ont pu dire à tel endroit, etc., je livrais, je sais pas trop quoi, j'ai vu les gens qui, etc. Donc on a ouvert combien de fosses? Ben, c'est énorme. 11 fosses. Il y a 11 fosses qui ont été ouvertes. Et donc on a dégagé les corps. Et ce qui était étonnant, alors pour la plupart, les corps étaient entiers, donc je rentre dans les détails, et sur deux fosses qui étaient vers la rue Robert, c'est une des rues qui est autour du monument actuel, hein. On a trouvé des corps démembrés avec beaucoup de têtes toutes seules. Ce qui veut dire que dans les fosses des Brotteaux, il y avait bien sûr ceux qui ont été fusillés, massacrés, canonnés, mais il y avait aussi des personnes qui avaient été guillotinées, et donc qu'on avait transporté dans ces deux fosses. Voilà. Donc tout ça a été réuni dans la chapelle actuelle. Donc là, je disais, deux fois par an, un office des fosses. Donc l'association d'aujourd'hui est toujours dans la même tradition. Deux fois par an, il y a un office solennel pour les morts, mais en réalité, il y a plus de messes pour les morts qui sont dites par la communauté religieuse qui est sur place. De tout temps, il y a eu une communauté religieuse qui était, on va dire, adossée au monument. Donc pendant très longtemps, ce furent les Capucins. Pendant un temps, ils ont été expulsés dans les années 1880. Maintenant, donc, il y a d'autres communautés religieuses dont j'ai parlé. Bon, ça, plusieurs. Donc ça, c'est le projet de monument pour recevoir le corps du général de Précy, donc de 1821. Alors pourquoi cette photo noir et blanc? C'est d'abord pour vous montrer que le deuxième monument était placé sur une surface très conséquente. C'était un hectare et demi. Ben, un hectare et demi, c'est quand même pas mal. Le monument et puis des espaces autour. Là, vous voyez Saint-Potin derrière. Et j'imagine que peut-être sur la partie droite ou haute, c'était l'endroit où on avait découvert ces deux fosses très près, on a voulu garder les terrains. Alors, donc tout se passe bien, pendant plusieurs dizaines d'années, on arrive en 1886, voilà, zone d'orage forte pour ceux qui gèrent l'association, donc qui gèrent le monument, la ville déclare qu'elle a un grand projet d'urbanisation et qu'il faut créer des lignes droites. Alors j'explique là. Voilà. Alors les lignes droites, donc je vais parler un peu fort, mais pour ce micro. Alors ici c'est ce qu'on appelle la rue de Créqui. La rue de Créqui aujourd'hui c'est ça va jusque là. Hein, voilà. Bon. La rue de Créqui n'allait que jusqu'au monument, deuxième monument. Je dis vite pour situer le monument d'aujourd'hui, il est là. Hein, donc voilà. Bon, la municipalité dit, moi, je veux continuer mes projets de lotissement. vous voyez, c'est le lotissement avant la Révolution, il avait été lancé. Il était, c'est que des lignes droites, voilà, donc il y a des belles opérations de promotion immobilière qui se font. Et donc là, il faut, si on veut continuer, hein, il faut couper, et il faut, là, il y a une autre rue qui s'appelle la rue des Martyrs. Et tous ces noms ont disparu. Hein. Ça, c'est la rue des Martyrs en 1843. Et là, donc, ça, c'est l'avenue des Martyrs. Jusqu'à, voilà, ça, c'est le pont Morand. Voilà, le pont Morand, l'hôtel de ville. Ça, c'est le trajet des condamnés à mort. Là, voilà, ils passaient de l'hôtel de ville, où ils étaient condamnés sur les escaliers devant la grande porte. Ils partaient là, et puis là, voilà, ils partaient par ici, et ils étaient, voilà, fusillés entre ces deux rues. Voilà, donc, il y a ce projet-là. Donc, ça suppose qu'on va détruire le monument. Alors, voilà, grande montée de boucliers des Lyonnais, pétition, 2000 personnes, etc. Ceux qui dirigeaient avaient des relations, donc ça monte au Conseil d'État. Et on essaye de trouver un arrangement avec les mairies. Et cet arrangement va passer par les hospices civils de Lyon, puisque c'est quand même eux qui sont propriétaires de toute cette partie non lotie, mais même la partie avant qu'elle soit lotie, c'était eux. Mais les lotissements passent par eux. Donc ils ont du poids, et donc la commission des Brotteaux va s'arranger avec l'hospice les hospices qui ne s'appelaient pas civils, je ne sais pas comment ils s'appelaient à cette époque, enfin voilà, tout le monde a compris, l'hôtel de Lyon. Et on va aboutir à un arrangement qui fait qu'effectivement, on va céder, on va revendre, la commission va revendre une petite partie, là, celle qui va être coupée, aux hospices civils, et en contrepartie, les hospices civils vont nous donner une autre portion pour qu'on puisse construire le nouveau bâtiment d'aujourd'hui que vous connaissez. Voilà, donc là, maintenant, on arrive au troisième bâtiment. Et donc, c'est finalement une opération qui s'est bien, relativement bien terminée, même si on va détruire. Et comme ils, bon, voilà, comme ils étaient bien conseillés, donc ils vont conseiller... On accepte la destruction de ce bâtiment avec pyramide que je vous ai montré que lorsque vous aurez autorisé la translation, enfin, c'est pas le terme, enfin le transfert, voilà, des décors. Ils avaient raison de le faire parce que ça s'est pas très bien passé, donc il y a eu un bras de fer, et finalement, un bras de fer avec M. Augagnier, qui était maire de Lyon, et finalement c'est M. Édouard Herriot, que tout le monde connaît, qui va faciliter les choses, et on va pouvoir donc inaugurer la nouvelle église avec le transfert des ossements qui ont été autorisés par la ville de Lyon. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit finalement qu'on s'est projeté peu de mètres sur les côtés. Donc là, on voit la coexistence des deux monuments. Celui-ci, qui n'est pas encore ouvert à des célébrations, et celui qui fonctionne encore, parce qu'on n'a pas encore transféré les corps. Voilà, une autre image intéressante, toujours la coexistence de ces deux bâtiments. Alors là, c'est un côté plus tragique, vous voyez, donc voilà, c'est la destruction du bâtiment. Nous sommes en 1906, et donc tout a été transféré, et donc la nouvelle chapelle, qui est déjà bâtie depuis 6 ans, voilà, on va être. Les offices en souvenir des morts vont pouvoir s'y dérouler. Voilà, alors le style d'aujourd'hui, voilà, c'est style néo-byzantin surmonté d'un dôme. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette. Je crois que la plupart connaissent. Hein. Donc, il y a l'église en elle-même, et puis donc il y a la crypte. Bon, la crypte, voilà, voilà ce qu'on peut. On peut y voir, donc les crânes, et le au milieu, enfin au milieu sur le côté, donc la tombe du général commandant les Lyonnais de Précy. Voilà, un peu plus près. Bon, alors, c'est pas très drôle, mais enfin, je suis allé les voir d'un peu plus près, et donc certains, vous voyez effectivement que le crâne est transperci d'un trou bien localisé, voilà, qui explique comment il est mort. Donc, on va pas finir sur ces images, évidemment. Ce qu'il faut voir dans le grand bâtiment, dans l'église, au-dessus de la crypte, donc c'est la liste de tous les Lyonnais guillotinés. Et puis, on n'y fait pas très attention parce que c'est sombre. Quand vous rentrez dans cet édifice, sur la droite et sur la gauche, vous avez deux urnes, on appelle des urnes funéraires en marbre blanc, l'une dédiée au souvenir du général de Précy et l'autre aux victimes du siège, qui est le second. Voilà. Donc moi je vous invite à le regarder, sur le général de Précy, donc on ne le voit pas en dessous, mais il y a effectivement son épée et puis les décorations qu'il portait. Et alors ce que j'aime bien sur le second, sur cette une en marbre blanc, donc c'est ce que vous voyez dans la partie du bas, parce que après vous avoir montré les têtes de mort, je voudrais vous donner une vision plus apaisée. Et donc il faut que vous regardiez ça, c'est ce lion couché qui représente la ville de Lyon, un lion apaisé, mais qui est quand même sur sa garde, avec l'épée qu'il garde sous lui, au cas où ses libertés, une liberté, sa ville s'est remise en cause. Je termine, pour respecter mon engagement, par Célalis, qui est président de la commission des Breteaux. Bon, c'est un hommage à tous ceux qui, depuis 1814 tout de même, je crois qu'il y en a 17, voilà, ont piloté cette association, dont certains qui ont eu des mandats de 35 ans, je pense à Maurice de Boissieu, et qui ont dû gérer des sujets difficiles, de destruction de la deuxième bâtiment, enfin de la deuxième église, et pour la construction de la troisième. Donc, vous y trouvez des noms connus à Lyon, donc Précy, Savaron, Antoine de Lacroix-Laval, Alphonse de Boissieu, le comte de Saint-Trivier, Louis Guérin, Louis de Lacroix-Laval, le baron de Gerfagnon, le baron de Vernin, Maurice de Boissieu, Pierre Ravier de Manille, le comte Charles de Gatelier, baron de Saint-Trivier, Georges Chardigny, comte André de Feydeau, Louis de Longueval et aujourd'hui, comte Jean-François de Feydeau. Voilà, donc je voulais finir là-dessus et je dis que les applaudissements sont dédiés à tous ceux qui ont œuvré pour cette belle œuvre. Et alors, si, j'ai pris une conclusion. Trois points. Ça va ? Zéro, hein. Alors, s'il y avait trois choses à retenir. Un, le monument se situe dans une filiation qui remonte au premier cénotaphe, construit dans une optique laïque et républicaine. Deuxièmement, le deuxième monument a ajouté une logique plus catholique, avec des offices pour les morts, pour les victimes qui y sont célébrées. Autre élément, les morts que nous célébrons, que nous voulons honorer, ils étaient de toutes les conditions sociales et de toutes les composantes politiques. Voilà, il y avait des républicains, il y avait des monarchistes, voilà. Kaléidoscope. Et donc, pour toutes ces considérations, je veux dire, l'action que vous menez et que la commission mène, alors quelquefois il y a des confusions entre les deux, entre Lyon 93, qui est donc une société savante, académique, qui produit des écrits avec des chercheurs, etc. Et puis la commission qui gère cet édifice, qui gère donc les relations avec la mairie, avec l'institution religieuse, voilà, qui fait vivre ce bâtiment. Et je dis, pour toutes ces considérations, nos actions communes, voilà, devraient être considérées comme d'intérêt général par tous les acteurs concernés par notre devoir de mémoire. Et je terminerai par cela. Bravo.